merci Marie-Cécile Benassi, parce que je crois que vous nous avez permis de comprendre beaucoup de choses, hein, et en particulier lever un certain nombre de doutes. On a tous entendu parler un peu de ces controverses autour de la canonisation, de ces accusations qui ont été portées sur les franciscains. Bon, vous avez remis les choses en place avec beaucoup de vigueur et beaucoup de vérité, et on vous en remercie. Je voudrais juste rajouter un tout petit point à propos, par exemple, de quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché. Ce sont la question des châtiments corporels.
Ah ben les 25 coups de fouet, oui, existait, oui.
Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les coups de fouet existaient dans tout le... Enfin, je veux dire, les frères eux-mêmes se donnaient la discipline à cette époque. Je veux dire, l'anachronisme, c'est quand même...
Ah ben c'est de l'anachronisme, oui, c'est
voilà,
ça.
Je veux dire...
Regardez les collèges anglais.
Ben voilà, c'est ça, je veux dire...
Oui.
Voilà. Donc, nous, on va passer, parce que je disais qu'on allait faire un saut de deux siècles, mais finalement, Marie-Cécile, vous avez bien évoqué ce 19e siècle absolument terrible. Alors, il y a un mot que vous n'avez pas évoqué, mais qui rend les catastrophes encore plus terribles, ce sont les tremblements de terre.
Ah, oui,
il y a énormément de tremblements de terre, en particulier celui de 1812, en particulier celui de 1906 et tout, il y a énormément de tremblements de terre qui mettent à bas les missions, à tel point que certains tremblements de terre vont faire que certaines missions vont être déplacées, que les Indiens ne veulent plus revenir à tel endroit et que les missions sont déplacées. Donc se rajoute en plus la question des tremblements de terre. Et donc vous avez bien évoqué ce siècle terrible qui a été ce 19e siècle, à partir des années 1830, où là, les franciscains ne sont plus là. À Santa Barbara.
Ils
sont restés.
Oui, il y en a quelques-uns. Hein,
ils sont restés parce qu'ils avaient réussi à créer un espèce de collège sous la dépendance directe du ministre général de l'Ordre. Donc ils avaient leur indépendance par rapport au Mexique. Donc c'est ce qui a donné la province auquel appartient ici notre frère Rian, c'est ça ? Nous avons la chance, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais nous avons la chance d'avoir un frère californien avec nous qui fait ses études actuellement. C'est un juste retour des choses puisqu'il fait... Il faut qu'il se lève, c'est ça. Il fait ses études actuellement sur Olivie. Hein, c'est ça. Donc un franciscain de la fin du XIIIe siècle. Il est venu ici travailler en France sur Pierre de Jean Olieu ou Olivie. Et il travaille en particulier sur la théorie des contrats, la philosophie économique. Vous voyez, un franciscain californien qui est avec nous ce soir, et c'est bientôt une fête, puisqu'ils vont célébrer dans quelques jours le centenaire de leur province, qui a été fondée donc en 1915. Voilà, donc après ce siècle terrible, il y a cette mode et cette culture de la mission qui a été relancée en dehors même, Marie-Cécile nous l'a dit, en dehors même des cercles catholiques, hein, qui fait que si vous allez à la gare de Santa Barbara, la gare des trains, vous avez une superbe gare qui a le style mission. Allez, vous verrez partout en Californie des bâtiments style mission qui n'ont rien à voir avec les missions, mais c'est un peu un mot magique et un style magique. On en aura quelques exemples tout à l'heure. Donc, à la fin de ce siècle, à la fin du 19e, on a reconstruit, on a cessé de reconstruire les maisons, les missions, et peu à peu, les paroisses catholiques et les frères ont pu s'y réinstaller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en particulier à Saint-Louis-Rey et à Santa Barbara, vous avez donc toujours des franciscains, et puis à Santa Inés, vous avez la carte des missions sous les yeux. À Santa Inés, vous avez des capucins aujourd'hui, hein, qui sont présents. Et pour le reste des missions, ce sont toutes des paroisses, sauf la mission de la Purissima, qui a été transformée en musée. Hein, c'est une espèce de musée, elle est désaffectée, une espèce de grand musée dans une espèce de parc national. Hein, et c'est donc devenu un musée. Voilà. Donc on va commencer peut-être par évoquer ce que c'est qu'une mission aujourd'hui. Hein, voilà.
Et alors là, nous sommes, je dirais, à 10 km à peu près. Parce que vous savez, donc on est à Los Angeles, au nord-est de Los Angeles. Alors Los Angeles, l'impression que fait Los Angeles pour quelqu'un qui connaît Paris, par exemple, il a l'impression que les quartiers parisiens sont des villes. en fait. Tellement c'est grand, c'est gigantesque. On nous avait dit, vous savez, sans GPS, vous ne vous en sortirez pas. Mais on s'est partagé les rôles, donc avec Pierre. Donc moi j'étais au volant et lui était copilote. Donc comme ça, on ne s'est pas perdu. Et on a trouvé tout simplement déjà la rivière, qui s'appelle la rivière
des Anges.
Des Anges. Voilà, qui est juste symbolique, enfin qui est signifié par un petit panneau. Et à partir de cette rivière, qui est tout près du downtown de Los Angeles, donc du centre-ville, du quartier d'affaires, vous imaginez un quartier avec des, un peu comme la Défense, si vous voulez, des immenses tours. Voilà, qui sont le quartier aussi où il y a les bâtiments administratifs. Donc, vous avez tout simplement la Mission Road qui vous emmène pendant 10 km. Donc il faut essayer de se tenir à cette route jusqu'à la mission San Gabriel. Et donc là, première rencontre avec la statue que l'on va retrouver partout.
Voilà, on la retrouve.
D'accord.
Partout.
Alors je pense que cette statue, elle est assez récente, je ne saurais pas dire, mais c'est une espèce de marque. Quand on a la statue, on a la mission. Voilà.
Avec la, quelque chose qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, avec la devise de Juniper, qui est, pour mieux la dire en espagnol, mais je ne la dirai pas en espagnol, qui est toujours aller de l'avant, jamais revenir en arrière. Et donc là, vous avez l'attitude du missionnaire avec son bâton. Et de fait, vous allez voir d'autres exemples. Voilà. Là, c'est une autre mission, la mission San Juan Batista. Une mission, c'est. Là, on est dans le.
Alors la diapositive précédente, la mission Saint-Jean-Baptiste, c'est une mission qui est un peu à l'écart.
On est chez Lucky Luke là.
On a vraiment l'impression d'être chez Lucky Luke quand on est, parce que c'est beaucoup plus petit que les autres missions, enfin au niveau de la ville elle-même. Et on sait que bon, c'est marqué dans le guide du routard que nous ne lâchons pas non plus, pour un certain nombre de détails pratiques, que c'est là que Hitchcock a tourné Vertigo. Et donc voilà, c'est aussi une mission avec un paysage beaucoup plus sec que Los Angeles par exemple, mais toujours cette statue et puis aussi ce coin de verdure quand même autour de la mission, parce qu'il y a toujours le jardin.
Alors une autre mission, alors ce qui est quand même très intéressant, c'est le titre donné à ces missions. Saint Louis Obispo, c'est Saint Louis évêque de Toulouse, hein, petit neveu du roi Saint Louis. Hein, vous avez à la fois dans ces villes de Californie une mission, on en reviendra tout à l'heure, dans laquelle nous avons passé plusieurs jours, qui est Saint Louis Rey de Francia, hein, Saint Louis roi de France, et ici Saint Louis Obispo, qui est au cœur d'une petite ville. Hein, et là, les gens qui habitent ici, c'est quand même très intéressant, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, vous disent combien ils sont attachés à ce patrimoine. Quand on y était, il y avait un festival qui, en grande partie, n'avait rien de chrétien, mais qui se passait dans le cadre de la mission. Je veux dire, c'est parfaitement intégré à la vie culturelle, et les gens sont très, très attachés à ce patrimoine. C'est d'ailleurs leur seul patrimoine. Hein, c'est leur seul patrimoine, ils sont très attachés. Voilà, donc ça, ici, c'est San Luis Obispo. Voilà. Bon, un autre exemple, alors là c'est dans un tout autre monde, alors c'est ici que tout à l'heure on verra des capucins, hein. C'est ici qu'il y a les capucins dans un autre cadre.
Hein. Santa Inès, donc qui je crois veut dire Sainte Agnès, ouais. C'est le numéro 8 sur votre carte, et en fait vous voyez là, je pense que c'est l'autoroute, c'est la 101, voilà, c'est enfin en partie, c'est le Camino Real, quoi,
voilà, donc on va pas
le temps, le chemin royal. Par lesquelles les missions sont reliées, qu'on peut relier à pied d'une certaine façon. Et Santa Inés, c'est un peu une mission de l'intérieur quand même. Ça ne se voit pas beaucoup parce qu'elle est quand même sur le littoral, mais c'est beaucoup plus sec comme région, avec des espaces un peu désertiques. Et donc, on a vraiment changé de paysage là.
Alors voilà, on vous a dit que ce n'était pas la mission la plus réussie tout à l'heure, mais au niveau de l'architecture, on le voit mal, c'est vraiment du blanc, 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 sur du bleu, bleu, bleu du ciel, c'est la mission de carte postale, hein, San Diego. Alors, on se pose toujours la question de savoir la date de ces monuments. On est parfois déçu quand on va voir dans le détail, parce que la plupart du temps, ils ont été reconstruits à la fin du 19e, même encore au début du 20e siècle. La seule, on la verra tout à l'heure, la seule qui soit véritablement intacte et dont les poutres de séquoia datent vraiment de 1791, c'est celle de San Francisco. celle qui a résisté à tout, y compris à la grande incendie de 1906, au grand tremblement de terre. C'est la seule qui a résisté. Mais par exemple, celle-là, elle a été reconstruite plusieurs fois. Même si ça a été reconstruit, bon, ça a beaucoup d'allure. Et vous voyez à côté de cette façade blanche, tout de suite, quelque chose qu'on verra partout et qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est le campanile, c'est les cloches, c'est la cloche symbole de la mission, c'est l'appel des Indiens pour se réunir et pour aller au travail, pour aller au repas, etc. Voilà. Donc ici, vous avez voilà. Les deux côtés du campanile. Voilà, la fameuse cloche, on revient à Saint-Jean-Baptista, on passe, voilà, donc ça c'est Saint-Jean-Baptista toujours. Alors voilà, là, c'est, ça se trouve pratiquement partout devant les
missions. Les
voilà. Vous avez des espèces de couloirs comme ça, ajourés, hein, qu'on voit absolument partout. Hein. C'est dans les partout. Je me souviens d'ailleurs que dans cette mission-là, il y avait des endroits où on vous disait, si vous pénétrez un peu plus loin, c'est à vos risques et périls, parce que ça n'a pas encore été sécurisé pour les questions de tremblement de terre. Hein. Donc, il y a toujours, sachez que là-bas, il y a quand même en permanence des tout petits tremblements de terre. C'est quotidien. Hein. Ça ne fait pas de victimes, mais c'est quotidien. Et vous savez que la grande menace, hein, c'est ce qu'on appelle le big one. Hein, c'est cette menace qui pèse un peu, en particulier sur San Francisco. On passe. Voilà, donc ce genre de grandes galeries, vous les avez un peu partout, y compris donc, ici à Saint-Jean-de-Baptiste. Bah,
c'est bien pratique pour Londres, quoi.
C'est bien pratique pour Londres, bien sûr. Voilà, c'est celle de Santa Inés. Santa Barbara, qu'on a appelée la reine des missions. Hein, vous verrez, parce que la façade, on la verra tout à l'heure, est assez majestueuse. On vous a pris cette vue-là parce qu'il y a la présence de l'eau. L'eau est très importante dans les missions, et en particulier toutes ces fontaines que vous avez à côté des missions sont toujours plus ou moins en rapport avec des lavoirs qui étaient destinés aux Indiens. Alors pas forcément celui-là de Santa Barbara, mais celui qu'on va voir ensuite, hein, et encore ensuite. Voilà. Là, on est ici à Saint-Louis Rey. Vous avez un escalier construit en briques, hein, la fameuse brique dont les Indiens étaient férus et qui savaient très très bien fabriquer. Hein. Ce grand escalier nous fait descendre à une buanderie, à un espace de lavoir très bien organisé. Et ça date de l'époque des Indiens.
Donc ça, on est à l'intérieur de la mission de San Luis Obispo, à l'intérieur de l'église. Voilà, donc en fait... Pour une mission, en gros, c'est une superbe façade éclatante au soleil, un jardin, des traces du patrimoine, enfin de la mission des Indiens, avec par exemple l'avoir ou la buanderie, l'église évidemment.
Elle qui est très simple.
Alors, Pierre veut vous en dire un mot.
Ouais. Alors, une église de mission, c'est toujours plus ou moins sous cette forme-là. Vous voyez un espèce de rectangle extrêmement simple, avec un plafond en bois plat, hein, supporté par des poutres, c'est tout le temps plus ou moins comme ça, et au fond, vous avez un retable plat. Donc c'est vraiment extrêmement simple comme mode de bâtiment, si vous voulez. Et pratiquement, ils seront tous comme ça.
C'est pas la simplicité franciscaine.
C'est sans doute franciscain aussi. Alors, là, on est à San Francisco. Là, on vous a photographié justement ces fameuses poutres dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elles, de fait, sont d'origine. Hein, 1791. Ce qui est énorme pour nos amis californiens. 1791. Et vous distinguez évidemment le IHS, qui avant d'être le symbole jésuite, est aussi le symbole de Saint-Jean de Capistran, de tous les
saints. Saint-Bernardin,
bien sûr. Voilà, alors là, oui, moi je suis très attaché à ce petit... On trouve de temps en temps, dans ces missions, des motifs qui manifestement sont liés à l'art indien. Alors celui-là a été pris à Saint-Gabriel, c'est-à-dire la mission qui est tout près de Los Angeles. Là, manifestement, vous voyez bien qu'on n'est pas dans l'art baroque ou une réminiscence de l'art baroque venant d'Espagne. On est dans un motif qui est un motif indien. Il y en a, je peux vous dire, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Là, on est à Saint-Gabriel encore. Je vous parlais d'un espèce de retable très, très plat, comme ça, avec un certain nombre de statues. En haut, vous avez la statue de l'archange Gabriel, on voit mal, mais qui est entourée par deux saints franciscains.
Alors voilà, ça c'est pour la famille, c'était le signe qu'on n'était pas perdu, quoi. On était sur le Camino Real, c'est-à-dire ce fameux chemin qui relie les missions. Et donc, tout simplement, c'est le nom de la route s'appelle El Camino Real. Et le symbole de la cloche aussi. Mais ça, c'est comme la statue de Junipero, je pense que c'est assez tardif.
Sure.
Mais je ne sais pas quand ça remonte, mais c'est assez tardif. Et donc, quelquefois, sur l'autoroute, vous avez aussi la cloche. Et donc, vous savez que vous êtes sur la bonne route, quoi.
Oui, vous avez des... Alors, ça, c'était... La photo n'est pas très bonne, mais on vous l'a prise parce que ça montre bien l'imbrication, je dirais, de la culture et puis de ces missions. Regardez ici, c'est la façade de la police à Oceanside. Oceanside, c'est à quelques minutes de la mission de Saint Louis Rey. Eh bien, la police de Oceanside a pris comme logo, comme petit dessin de façade, eh bien, la façade de la mission. Et ça ne gêne strictement personne là-bas. Vous voyez, c'est assez typique de.
Ça, alors, c'est très intéressant. Ici, nous sommes à l'intérieur du cloître de Santa Inés. Oui. Et ça faisait longtemps qu'on cherchait à photographier une petite maquette, en fait. C'est une maquette de mission que les élèves de 4e année du primaire doivent faire. Ça fait partie de leur parcours scolaire. Ils doivent fabriquer, soit en papier mâché, soit en sucre, soit d'une manière ou d'une autre, une petite mission de leur choix. Parce que ça fait partie de leur parcours historique, on pourrait dire, hein, de leur formation. Donc ça, je pense qu'ils ont réalisé celle de Santa Inés.
Et c'est tous les petits Californiens qui sont soumis à ce genre de choses. Ça fait partie du programme officiel d'histoire de la Californie à l'école primaire, je veux dire. C'est intéressant de voir comment ça rentre dans la tête de tous les petits Californiens. Alors voilà, là vous aviez un exemple simplement de petits packs pour...
Oui, ça c'est quand vous êtes paresseux, vous avez les trucs préfabriqués comme chez Ikea, vous pouvez faire votre petite
mission
maquette, mais c'est déjà prédécoupé, donc c'est marqué traditionally, mais en fait non, c'est pas traditionnel, vous devez mettre la main à la pâte.
Alors ça,
Pierre était très fier.
Vous voyez ce que
c'est la Mexican food, hein, c'est de la galette de maïs, hein, donc avec le logo de la cloche, de la mission. Donc tout le monde surfe sur la mission. Voilà. C'est un argument commercial.
Alors, qu'on trouve aussi dans toutes les missions, c'est le cimetière. Le cimetière qui entoure la mission et où, assez souvent, on entend là évoquer les Indiens aussi. Hein. Peut-être dans une qui viendra après. Par exemple, voilà, la mission Saint-Jean-Baptiste, voilà, on vous dit que sont enterrés dans cette terre sacrée, dans des tombes qui ne sont pas identifiées, il y a 4300 Indiens de la mission, des Espagnols et des soldats, quoi, je veux dire. Hein. Donc on a ça à l'entrée de ce cimetière. Et les cimetières sont très très bien organisés et servent encore aujourd'hui. Hein. Je crois que dans un certain nombre de missions, c'est un revenu que d'accueillir des gens qui se font enterrer autour de la mission. Alors là, on ne voit pas très très bien. Tout à l'heure, Marie-Cécile vous a parlé du frère Francisco Palou, qui a été à la fois l'ami de Juniper Serra et son premier biographe. Eh bien, il y a une plaque comme ça dans la mission de San Francisco qui évoque l'endroit où il a été enterré.
Alors ici, donc, on était à San Luis Rey et on a eu la chance le samedi de voir un mariage hispanique. Donc parce que effectivement, à San Luis Rey, ceux qui sont attirés sont plutôt les hispaniques, même si c'est une population très hétéroclite. Voilà, donc on a pris la photo pour faire beau. On était contents parce que ça fait à la fois américain et hispanique. Ah, alors ça, voilà. C'est très important.
Alors ça, c'est très important. C'est la photo qui fait scandale. Vous ne le voyez pas comme ça, mais là, on est à Saint-Louis Rey. Voilà, donc on est chez les frères, hein, chez les franciscains. C'est un lieu, une grande paroisse. Il y a plus de 6000 familles. Il y a un centre théologique. Il y a un lieu où les tertiaires font des retraites. Enfin, c'est une grosse organisation, Saint-Louis Rey. Mais ce qui scandalise, par exemple, le prêtre irlandais qui est dans la paroisse voisine et qui vient dire aux frères qu'il n'est pas content, c'est qu'il voit trois drapeaux à la même hauteur. À la même hauteur. À côté de l'église. Vous avez le drapeau américain avec en dessous le drapeau de la Californie, vous avez le drapeau espagnol et vous avez le drapeau mexicain. Et que il n'y ait pas de suprématie du drapeau américain, ça, le frère,
c'est
l'un des frères...
C'est un acte politique.
Voilà, c'est un acte politique, et les frères nous ont dit que ça, a énervé un certain nombre de gens d'autres paroisses à côté. Parce que ce qu'on a bien senti aussi, même si ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on a... C'est 15 jours, hein, on ne va pas vous prétendre qu'on connaît la Californie, c'est complètement idiot. On vous dit ce qu'on a, les petites choses qu'on a pu sentir. Mais il est évident que le catholicisme, ici comme là-bas, il y a des sensibilités différentes, hein, je veux dire. Et la sensibilité de cette paroisse Saint-Louis-Rey, c'est une paroisse où on vous dit que, où le curé vous dit très fièrement qu'ici on est open et qu'on accueille toutes sortes de gens, de familles, toutes sortes de familles, des familles gays avec des enfants, tout ça, on est open, je veux dire, hein, c'est leur volonté d'être open. Ils le disent avec beaucoup d'insistance. C'est pas partout pareil, mais c'est comme ça ici. Voilà, ça c'est notre fameux petit couple qui sort de Saint-Louis-Rey. Et il est évident, et ça, j'ai compris ça en lisant Marie-Cécile Benassi, mais c'est véritablement la victoire posthume, d'une certaine manière, de Ginny Bercera. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui les Hispaniques qui sont chez eux dans ces missions. Alors ça, c'est la messe pas dans la mission parce qu'elle est trop petite, hein, mais à côté, ils ont été obligés de construire une autre où il y a plusieurs messes chaque dimanche. Hein, et là, vous avez un panneau lumineux qui donne la prière pour la paix, et vous avez toujours au fond, parce qu'elle est toujours présente, la Vierge de Guadalupe, hein, qui est constamment présente dans toutes ses missions. Voilà, là au milieu, vous avez Bill Short, le frère Bill Short qui nous a accueillis, qui est à la fois un spécialiste d'histoire franciscaine et qui nous a très fraternellement accueillis. Voilà, voilà. Alors on va passer à la suite, c'est une. Alors la suite, c'est une. Vous allez voir.
Oui, alors c'est la procession de la statue de Saint-Louis,
oui,
à Saint-Louis-Rey, que nous n'avons pas vu, oui. Mais on a téléchargé la vidéo pour vous montrer. Bill Short nous a expliqué qu'en fait, bon alors, on sait bien que les Hispaniques aiment beaucoup les statues, mais en plus, il y a cette idée que les statues aiment les prières et qu'elles ont besoin de sortir pour aller à la rencontre des fidèles, parce qu'elles se nourrissent de la prière des fidèles. Et une statue qui n'est pas visitée, qui n'est pas priée, ben elle meurt d'une certaine manière. Elle n'a plus de sens. Alors, en principe, il y a un peu de sens.
Located in Oceanside, California. Tonight we're celebrating the procession of the saints, Saint Louis Rey, Saint Louis the Ninth, the King of France.
La statue de Saint-Louis, là, voyez,
King of France.
St. Louis was the king of France in the 13th century. He's considered a very holy man. He was particularly devoted to the poor and to helping those who were in great need. His mother was a Spanish princess, and he was also a secular Franciscan. And since this mission was founded by the Franciscans, they chose to call the mission St. Louis Rey, St. Louis the King. The procession of the saints, St. Louis Rey, begins with a high mass in the historical church. Many Franciscans come to it. Everybody's invited to it. And then after the mass, we come out the doors and we have the procession. And so as part of the procession of the saints, different culture groups celebrate by dancing. You'll see traditional women from perhaps Oaxaca, Mexico, with their traditional costumes and the baskets on the head. You'll see the Aztec dancers, the Filipinos dance, and the Samoans sing. And then as it starts to get dark, the procession of the ancient statue, which is over 200 years old, he's carried on a platform out of the church, and it's just a celebration of the people of God coming together in joy. And then it'll go around the front of the mission, and then there's the fireworks later in the evening as the saint processes around the plaza. The image of the saint is the original statue from the main altar of the church. It was built, they think, between 1798 and 1803. The procession of the saint is actually part of a larger celebration. It goes on for about 9 days. It's always held on the Friday before the Heritage Ball. It's a free event, there's no charge. Everybody's invited. It's a celebration of life. It's a celebration of God's grace in the world. It's a celebration for the people to come together and just have a good time and remember how God has worked in their life. For more information, you can visit our website at sanluisray.org.
J'adore, ils perdent jamais le nord. C'est-à-dire, pour plus d'informations, vous irez voir le site, n'est-ce pas ?
Ouais.
Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez. Formidable. Avant la messe, on a un grand écran avec vidéo, avec tout ce qui va se passer dans la semaine, dans la paroisse. On fait de la pub, on fait des annonces, on nous invite. Et comment donner de l'argent, etc. On nous donne tous les moyens, n'est-ce pas ? L'efficacité américaine est dans la paroisse aussi. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Alors, l'histoire de la statue, Pierre va vous la raconter aussi.
Non, mais... C'est intéressant de savoir que cette statue, c'est une statue qui n'était pas à Saint-Louis-Rey, si j'ai bien compris, mais dans une autre mission, mais que les Indiens ont conservé de leur côté pendant très longtemps. Et ils ont voulu vérifier si les franciscains restaient suffisamment longtemps pour leur rendre.
Il y a à peine 10 ans, je crois.
Voilà.
D'après mes souvenirs, d'après ce qu'avait dit Bill Short, c'était pas lui qu'on voyait, hein, c'était le frère David. Bill Short nous a dit que ça faisait à peine 10 ans, je crois que c'était 8, que les Indiens qui gardaient cette statue de génération en génération l'avaient restituée aux franciscains parce que ça y est, ils avaient vérifié qu'ils allaient rester un certain temps. Et donc, ils pouvaient rendre la statue. Et c'est formidable, cette procession qui a lieu donc le jour de la fête, enfin le dimanche qui est pas loin de la fête de Saint-Louis, donc cette année-là c'était le 24 août. C'est extrêmement hétéroclite. Vous avez à la fois la Miss Oceanside, vous avez les danses des Aztèques, il a dit les Aztèques, c'était pas les Chumash, enfin je sais pas. Tout se mélange dans une espèce de joyeuse fête et à la fin feu d'artifice.
C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est donc Santa Barbara. Passons, on va peut-être. Voilà, ça c'est le cimetière des frères. Là, si on regarde un petit peu en détail, à chaque fois c'est des OFM, c'est des frères qui sont dans le cimetière. Passons. Voilà. Alors ici, changement de décor. On vous a dit différentes sensibilités de ce catholicisme américain. Là, on arrive un soir, c'est intéressant de vous le rappeler, on arrive un soir à Santa Inés. Là, c'est les lumières du campanile qui sont allumées. On arrive un soir à Santa Inés et on entend des chants un peu partout. Et bien, on rencontre pas ce frère. Santa Inés, on y arrive le soir, on devait être accueilli par les Capucins. On ne trouve pas les Capucins. Et ce qu'on voit tout de suite, la première chose qu'on a vue tout de suite, c'était le Saint-Sacrement et des familles, des couples qui se relayaient devant le Saint-Sacrement. Et ces couples qui se relaient devant le Saint-Sacrement, ils le font toute la semaine, entre 5h du matin et 11h du soir. Voilà. Ça a été notre première découverte et notre première rencontre avec Santa Inés. Une chose qui est intéressante, c'est que il y a, pour chacune des missions, toujours des guides qui font visiter. Et qui font... Il y a toujours dans une mission un petit musée historique avec des gens qui sont souvent des bénévoles. La plupart du temps, ce sont des bénévoles très, très cultivés qui connaissent bien l'histoire de leur mission. Parce que tout à l'heure, on vous a parlé de Juniper Serra, on vous a parlé de son successeur, mais dans chaque mission, finalement, vous avez le fondateur, vous avez des personnalités intéressantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est extrêmement sensible en ce moment en Californie aux droits normaux, d'ailleurs, des Indiens, on fait très très attention au discours qui peut être tenu par ces gens qui ne sont pas des Indiens et qui vous font visiter. Et nous, quand on est arrivé à Santa Inés, on nous a fait voir une lettre que les évêques de Californie venaient d'envoyer à toutes les missions pour leur dire « Attention, attention, veillez à ce que le discours mettez en avant le fait que les Indiens ont collaboré à la construction des missions, faites très attention, etc. » Enfin, c'était véritablement... on sentait... C'était le contexte de la canonisation. On était un mois avant la canonisation et on sentait véritablement que les évêques de Californie, pour tout dire, ils avaient les jetons et ils avaient très envie qu'au moins du point de vue du discours tenu dans l'émission, eh bien, il y ait un véritable...
Que ce soit irréprochable, quoi.
Qu'on soit irréprochable, voilà, c'est ça. Cela dit, voilà. Donc on passe, là, on est à Santa Inés. Voilà deux capucins de Santa Inés, qui ont été à gauche ses frères
Gérald
Barron et à droite ses frères Matt, qui ont d'ailleurs tous les deux été provinciaux. Celui de gauche est un Irlandais, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XXe siècle, il y a beaucoup de religieux irlandais qui sont arrivés. Et celui de droite est un Américain. Il y a actuellement un postulant dans leur province. Je suis allé voir. Il y a un peu plus de frères qu'en France. Je crois que c'est de l'ordre de 200 frères dans cette province-là de Californie. Il y a un peu la même chose d'ailleurs pour les franciscains. Voilà, donc frère Gérald Barron. Alors, un petit rappel, on vous a parlé de la Purissima, qui est la seule qui soit désaffectée, et qui est une espèce de, je dirais, de...
Musée Grévin.
Voilà, musée Grévin de la mission, si vous voulez. Hein, donc elle est intéressante, hein, je veux dire. Mais bon, on sent bien que là c'est l'État, avec un autre discours, avec là encore une volonté de... C'est toujours, on est toujours un peu sur la crête. Quant au discours qu'on tient sur les Indiens et le discours que l'on tient sur les missions, c'est toujours très compliqué et tout. Et en particulier, là-dedans, il y a un musée très important. On passe, voilà. Bon, il y a des reconstitutions, de tas de choses. Voilà. Alors là on est à... Et la suivante.
On est à Monterrey.
Voilà, on est à Monterrey. Là, on est à l'endroit où a été célébrée la première messe en 1770, où Juniper Serra a célébré la première messe à Monterrey, au Presidio de Monterrey. On vous l'a dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle, le Presidio, c'est le poste militaire. Hein, ce n'est pas la mission. Hein. La mission sera à quelques kilomètres de là, ce sera la mission de Carmel, la mission sous le patronage de Saint-Charles Borromée, mais ici, c'est le Presidio, c'est-à-dire c'est là où a célébré la première messe Juniper Serra.
Et c'est Léonard qui fait l'idiot.
Voilà, c'est Léonard qui fait l'idiot. Voilà.
Il sort du bateau.
Voilà, oui, tout à fait. Et là, c'est la mission de Carmel. Oui, c'est ici qu'est enterré Juniper Serra.
Pardon.
Oui, c'est ici. Je vous signale qu'entre parenthèses, après la canonisation, je crois que c'est ici qu'il y a eu quelques graffitis ou quelques voilà sur le cénotaphe, enfin, sur le ensemble de choses rappelant. Voilà. C'est ici aussi qu'est passé Jean-Paul II, oui. Qui est venu prier ici.
Eh ben, c'est lui qui l'a béatifié.
Voilà, c'est lui qui l'a béatifié. Alors ici, c'est très très simple. La celle du milieu, vous ne voyez pas, mais si vous regardez un petit peu en détail la photo, il y a écrit Juniper Serra. C'est ça, c'est sa tombe. C'est celle du milieu, c'est sa tombe, toute simple, avec le portrait qui est le portrait qui semble être le plus proche, avec cette espèce de petite mèche au milieu, le plus conforme à ce qu'a pu être Juniper Serra. Un autre exemple, on monte vers le haut, un autre exemple, la mission Santa Clara, qui a été fondée en 1777, mais vous voyez, qui a changé de site, elle, et qui a été restaurée en 1928, ça a été reconstruite en 1928. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette mission, c'est une mission qui, aujourd'hui, est au cœur de la Silicon Valley, et qui est au cœur d'une université jésuite. C'est la chapelle d'une grande université jésuite, l'université Santa Clara. Voilà. Voilà la façade, qui est une façade des années 1930. Hein. Ne croyons pas que nous avons de l'art baroque ou quelque chose. Enfin, c'est les années 1930. Hein. Voilà, passons encore. Je voudrais vous faire voir quelque chose. Là, on est au cœur du campus. Hein. Voilà. Avec une église ouverte 24 heures sur 24. Comme la bibliothèque. Hein. Voilà. Alors, ce qui est devant, c'est intéressant, ce qui est devant la chapelle du campus, ce sont des croix qui rappellent, nous sommes dans une université jésuite, qui rappelle des missionnaires martyrs jésuites qui ont été assassinés au Salvador dans les années 1980. Ils avaient des liens avec cette mission Santa Clara, et donc il y a à la fois les missionnaires, leur cuisinière et la fille de la cuisinière qui ont été tués par ce qu'on appelait à l'époque, c'était déjà vieux comme souvenir, mais vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelait les escadrons de la mort. Mmh. C'est eux qui ont tué ces... Et on en fait mémoire devant cette... voilà. On passe... Voilà, on fait toujours des racontes intéressantes. Voilà quelqu'un, Élise, un monsieur qui...
Oui, un monsieur qui était sur son vélo, qui n'a même pas enlevé son casque, hein, qui a accepté de... Qui parlait à peu près à moitié italien, espagnol, anglais, et qui nous a raconté toutes ces histoires, enfin qui nous a conduit jusqu'à Santa Clara parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'entrée, parce qu'on était arrivé tard le soir. Et donc il se trouve que pour nous, cette espèce de pèlerinage qu'on a fait, ça passe aussi par des gens qu'on rencontre comme ça par hasard ou par providence, ouais. Et qui nous conduisent au bon endroit.
Voilà.
Voilà.
Et qui... Voilà, vas-y. et qui peuvent avoir des avis extrêmement différents, oui, parfois, par rapport à la canonisation. On est par exemple arrivé dans le dans la cathédrale de Monterrey, donc la cathédrale de Monterrey, avec quelqu'un qui était un ancien, un vigneron à la retraite,
c'est ça,
voilà, qui était en train de balayer là, hein, et qui nous a dit la canonisation, c'est une gifle aux Indiens. Donc un catholique, hein. Oui, bah, oui, 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 tout à fait. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'ils existent aussi, ces gens-là. Hein, des catholiques californiens qui considèrent que la canonisation, c'était une gifle donnée aux Indiens. Hein. Reconnaissant en même temps que Juniper, lui, était un brave homme, était un good man, il dit. Hein, mais que la canonisation, c'était d'une certaine manière nier tout ce qu'avaient subi par la suite les Indiens. Et on ne peut pas nier qu'ils n'aient pas subi des choses absolument dramatiques et catastrophiques, c'est évident. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les franciscains n'y sont strictement pour rien. C'est là le problème, finalement. Voilà. On passe. Voilà, là on est à San Francisco.
Ah oui.
Voilà, on est dans le cimetière de San Francisco, cette chapelle qui de fait date de 1791, en pleine Révolution française, je vous signale.
Oui. Hein,
en pleine Révolution française, on construit ces édifices-là. Voilà. On le voit mal, mais par exemple dans cette église San Francisco, vous avez un Saint-Jean de Capistran qui est habillé avec une armure. Hein, Saint-Jean de Capistran, vous savez qu'il a défendu. Voilà, on a peu l'habitude, nous, de voir Saint-Jean de Capistran habillé avec une armure. Bah, eux, ils n'ont pas peur, une armure et une épée. Hein. Voilà, et on voulait terminer sur cette image-là. Pourquoi? Parce que c'est une image qui, actuellement, il y a un problème derrière ça. Là, c'est la visite du pape François. Là, vous avez la statue de Juniper Serra qui se trouve au Capitole. Bon, pourquoi? Parce que vous savez que chaque État américain est représenté par deux héros. Pour l'instant, la Californie est représentée par Juniper Serra et par Ronald Reagan. Ce sont les deux héros de la Californie actuellement. Bon, le problème, c'est que vous avez une femme astronaute californienne qui est morte, qui faisait aussi partie du mouvement LGBT. Bon, vous voyez un peu le... Voilà. Que...
Sally Ride.
Sally Ride. Voilà. Que une bonne partie des Californiens voudraient que sa statue
remplace
celle de Juniper Serra. Il y a toute une campagne actuellement de presse pour enlever la statue de Juniper Serra et de la remplacer par celle de Sally Ride. Alors là-dessus, je crois que l'archevêque de Los Angeles a très bien joué. Ce qu'on nous l'a raconté, hein, il a très bien joué. Il a dit aux représentants du Sénat de Californie, il a dit, vous pouvez très très bien, c'est votre droit, hein, puisque c'est à chaque Sénat de mettre les deux statues qu'il veut, mais si on enlève Juniper Serra, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun hispanique qui aura sa statue au Capitole.
Ça a fait cesser.
Et ça a fait cesser, en tout cas pour l'instant, la polémique. Hein, parce que de fait, Juniper Serra, c'est le seul hispanique qui soit au Capitole. Intéressant, vous voyez, comme. Il faut jouer finaux dans ces cas-là. Voilà où on en est. Donc, encore une fois, c'est extrêmement modeste. Et on va surtout. Enfin, on ne veut surtout pas vous. Avoir l'idiotie de vous faire croire qu'on connaît. Non, on vous donne quelques impressions pour vous donner envie à vous aussi de peut-être de faire un jour ce voyage, ce pèlerinage. Mais je trouve que ça vaut le coup et c'est une belle aventure apostolique qui continue, je crois, à porter du fruit aujourd'hui. Voilà. Merci.